Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Petit zoom aujourd'hui sur une période extrêmement riche pour l'astronomie, le 18e siècle. Je vous ai parlé dans de précédents épisodes de la révolution héliocentrique avec Copernic, Galilée ou encore Kepler. Je vous ai déjà raconté la vie d'Isaac Newton dans une précédente saison. Tous ces savants du XVIIe siècle ont permis de révolutionner totalement la compréhension que l'homme avait de l'univers. Et il était maintenant prêt à observer le ciel avec ce nouveau statut et à faire d'immenses découvertes. C'est pourquoi la fin du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle furent des périodes de progrès considérables dans l'astronomie, marquées par des contributions de nombreux astronomes remarquables. Les progrès rapides en optique permirent d'améliorer grandement les instruments d'observation, et donc de voir plus de choses dans le ciel. Newton, par exemple, grâce à son talent en optique, a permis de corriger l'aberration chromatique des télescopes de l'époque. Les montures des télescopes sont aussi devenues plus stables et plus précises, permettant des observations plus longues et plus détaillées. Des mécanismes comme les montures équatoriales ont facilité le suivi des objets célestes. Bref, tout était prêt pour d'immenses découvertes. Et commençons avec le très connu Edmond Halley. Bien que Halley soit né au XVIIe siècle, ses travaux influencèrent profondément le XVIIIe. Il est surtout connu pour avoir prédit le retour de la comète qui porte maintenant son nom, démontrant ainsi que certaines comètes étaient périodiques. C'est à l'âge de 39 ans que Edmond Halley s'attaqua au problème qui plus tard allait lui assurer son plus grand titre de gloire. Pour cela, il entreprit de recenser tous les passages cométaires d'un passé récent et lointain. Il recalcula les orbites de 24 comètes ayant effectué un passage au périhélie entre 1337 et 1698. Ce fut un travail de titan, méticuleux, de longue haleine. Il parvint, au bout de plusieurs années, à isoler trois passages ayant lieu en 1531, 1607 et 1682, et qui représentaient des similitudes en termes de trajectoire. Bien que la correspondance semblât parfaite entre ces données, Halley s'inquiétait des légères différences qui ne pouvaient s'expliquer uniquement par les imprécisions de mesure. De plus, l'intervalle variait de plus d'une année. Halley formula donc l'hypothèse qu'une force quelconque, encore inexpliquée, était responsable de tels écarts. Mais il ne pouvait pas s'en persuader totalement, faute d'explications scientifiques rigoureuses. S'en ouvrant à Isaac Newton, celui-ci suggéra de calculer les éventuelles perturbations gravitationnelles entre sa comète et d'autres comètes. Quelques calculs lui montrèrent la fausseté de cette hypothèse, mais ça suffit à lui échauffer suffisamment l'esprit pour qu'il entreprît de calculer les perturbations provoquées par Jupiter et Saturne, qui étaient alors les dernières planètes connues du système solaire. Les calculs montrèrent une corrélation presque parfaite entre sa théorie et les passages observés. Fort de ces résultats, il publie en 1705 les résultats de son travail, dans un ouvrage intitulé « Synopsis de l'astronomie des comètes ». Et dans lequel il considère que les trois comètes observées respectivement par Appien en 1531, par Kepler en 1607 et par lui-même en 1682 n'étaient qu'une seule et même comète. Et fait la prophétie entièrement scientifique du retour de cette comète pour Noël 1758. Halley savait ainsi en rédigeant cette étude qu'il ne verrait jamais de son vivant la confirmation de ses calculs. Le prochain passage devait se réaliser l'année de ses 102 ans. Et puis cette histoire de comète tomba un petit peu dans l'oubli, à tel point qu'à la mort de Halley en 1742, les rubriques nécrologiques mentionnaient plutôt son activité de cartographe marin plutôt que de la précision du retour de cette comète périodique. Toutefois, en 1757, un mathématicien français, Alexis Clairaut, prit la décision de reprendre les calculs de Halley, afin, en améliorant la précision de ses calculs, de prédire plus finement la date du retour de la comète. Les délais étaient courts, les calculs devaient être refaits avant la réapparition de la comète afin de couper court à toute accusation de tromperie. Les calculs d'interaction gravitationnelle de la comète avec la Terre, Jupiter et Saturne étaient colossaux pour le faible délai dont ils disposaient, c'est-à-dire un peu plus d'un an. Il fit donc appel à Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande et à la mathématicienne Nicole Reine Lepaute. Après des mois de calculs, l'équipe des trois astronomes officiels annonça en novembre 58 que la comète effectuerait son passage au périhélie, c'est-à-dire au plus près de la Terre, le 13 avril 1759. La communauté astronomique mondiale, qui n'avait pas une très très grande foi dans les prédictions de Halley, se remit donc à scruter fiévreusement le ciel. Le 25 décembre 58, la comète fut observée à l'endroit exact où l'avait prédit Halley par un observateur près de Dresde. Trois ans avant sa mort, Halley énonçait « Si le retour prévu par nous pour l'année 1758 se réalise, l'impartiale postérité ne se refusera pas à reconnaître que ce fut un Anglais qui l'annonça pour la première fois. Ce vœu fut largement exaucé puisque la communauté des astronomes décida, à la suite de ce succès posthume, de donner le nom de Halley à cette comète. Halley avait connu et fréquenté un autre astronome capital à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est Jean-Dominique Cassini, ou plutôt Giovanni Domenico Cassini, né en Italie en 1625. Il est issu d'une famille noble et son éducation initiale est prise en charge par son oncle, l'abbé Cassini, qui l'encourage à étudier les mathématiques et l'astronomie. Il poursuit ses études à l'université de Gênes, où il se spécialise en mathématiques, astronomie et astrologie. En 1652, alors qu'il est professeur à Bologne, il publie un important travail sur une éclipse de soleil qu'il observe, ce qui attire l'attention de nombreux scientifiques européens. Il travaille ensuite sur les comètes en proposant des théories sur leurs orbites. C'est là qu'il rentre en contact avec Edmond Halley, à qui il suggère que les comètes viennent souvent du même endroit. Cassini effectue des observations détaillées des planètes Jupiter et Mars. Il découvre la grande tache rouge de Jupiter en 1665. Il détermine la même année la vitesse de rotation de Jupiter, de Mars et de Vénus. En 69, sur une invitation du ministre français Colbert, Cassini se rend en France pour diriger l'observatoire de Paris, qui est alors en construction. Il devient le directeur de l'observatoire en 1671 et est naturalisé français la même année. Cassini est surtout connu pour ses observations du système saturnien. Entre 71 et 84, il découvre quatre lunes de Saturne. En 1675, il découvre aussi une division dans les anneaux de Saturne qui porte aujourd'hui son nom, la division de Cassini. Cassini est reconnu pour la précision de ses observations et son approche rigoureuse de la recherche scientifique, établissant des standards élevés pour les astronomes futurs. Avançons un petit peu dans notre XVIIIe siècle pour parler du français Simon-Pierre Laplace, qui est né en 1749. Laplace est souvent comparé à Isaac Newton pour ses contributions à la mécanique céleste. Il est en particulier célèbre pour son ouvrage en 5 volumes, Traité de mécanique céleste, où il appliqua les mathématiques à la théorie de la gravitation. En particulier, il appliquera non pas la géométrie comme il était d'usage jusqu'alors, mais l'analyse mathématique. Et il se sert de l'analyse pour envisager à la fois le passé du système solaire, mais également son avenir, en s'attaquant au problème de la stabilité du système solaire. Laplace va ainsi établir l'hypothèse de la nébuleuse en ce qui concerne l'origine du système solaire. L'idée principale de cette théorie, même avec quelques importantes modifications, est toujours acceptée largement aujourd'hui. Laplace montre qu'il pourrait y avoir des corps massifs dotés d'une gravité si grande que la lumière elle-même n'aurait pas une vitesse suffisante pour sortir de leur intérieur. Une idée aujourd'hui rapprochée des trous noirs de la cosmologie moderne. Laplace découvre aussi l'existence d'autres galaxies puisqu'il suppose que certaines étoiles qu'on a pu observer à l'aide des télescopes ne font pas partie de notre Voie lactée et sont elles-mêmes d'autres galaxies lointaines. Laplace, même s'il a fait ses énormes découvertes, est surtout célèbre pour une boutade, par laquelle devant Napoléon, il aurait relégué Dieu au rang de supposition. Je vous cite la scène d'après Henri Faye. Comme le citoyen Laplace présentait au général Bonaparte la première édition de son exposition du système du monde, le général lui dit « Newton a parlé de Dieu dans son livre. J'ai déjà parcouru le vôtre et je n'y ai pas trouvé ce nom une seule fois. » À quoi Laplace aurait répondu « Citoyen premier consul, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Alors, même si de nombreux matérialistes ont profité de ce bon mot pour soutenir leur hypothèse d'absence de Dieu, il semblerait que Laplace ne parlait que de l'intervention divine pour maintenir le système solaire en place. Car Newton, lui, pensait que c'était Dieu qui était obligé d'intervenir de temps en temps pour remédier aux perturbations et remettre en quelque sorte le système sur pied. C'est surtout parce qu'il manquait à Newton des outils et des données qu'il avait conclu que puisque notre système solaire semblait tout de même assez stable, c'est que quelqu'un devait le remettre un petit peu sur les rails de temps en temps. Or, Laplace, lui, avec l'aide de l'analyse mathématique, a pu comprendre que les données du système solaire lui-même suffisaient à expliquer sa stabilité. Pas besoin donc d'une hypothèse d'une intervention divine. Il est plutôt probable d'ailleurs qu'il croyait en Dieu car il écrit à son fils le 17 juin 1809 « Je prie Dieu qu'il veille sur tes jours, aie-le toujours présent à tes pensées ainsi que ton père et ta mère. » Traversons maintenant la Manche pour parler de la famille Herschel. Dans le paisible jardin de leur maison à Bath, un frère et une sœur ont révolutionné notre compréhension de l'univers. William et Caroline Herschel, un duo inséparable passionné d'astronomie, qui ont marqué l'histoire par leurs découvertes majeures, mais aussi leur dévouement sans faille à l'exploration des cieux. William Herschel était initialement destiné à une carrière musicale. Cependant, son intérêt pour l'astronomie, couplé à ses talents d'opticien, l'a conduit à construire ses propres télescopes. des instruments bien plus puissants que ceux disponibles à l'époque. Et c'est grâce à un de ces télescopes que William fit une découverte retentissante le 13 mars 1781. Il a découvert une nouvelle planète, Uranus. Cette découverte, la première d'une planète depuis l'Antiquité, a non seulement élargi notre système solaire, mais a également solidifié la réputation de William dans le domaine scientifique. Mais Herschel ne s'est pas arrêté là. Son inventivité en matière de construction de télescopes lui a permis de cartographier plus de 2500 nébuleuses et amas d'étoiles. Aux côtés de William, Caroline est née en 1750, le 16 mars. Elle a joué un rôle crucial. Malgré des barrières sociales de l'époque qui limitaient les opportunités des femmes, Caroline s'est imposée comme une astronome de premier plan. Sa rigueur et son acuité ont permis des découvertes notables. En 1786, Caroline découvre sa première comète, devenant ainsi la première femme à identifier un tel objet céleste. Au total, elle en découvrira 8, chacune ajoutant une nouvelle pièce au puzzle cosmique. Son travail méthodique lui vaut également d'être la première femme à recevoir un salaire pour des travaux scientifiques, une reconnaissance de son talent et de sa contribution significative. Caroline a aussi créé un catalogue de nébuleuses et d'amas d'étoiles qui a non seulement aidé William dans ses recherches, mais a aussi servi de référence pour les astronomes futurs. William, avec ses talents d'opticien et son esprit d'innovation, a fourni les outils et les infrastructures nécessaires. Caroline, avec sa minutie et son dévouement, a complété cette dynamique en apportant rigueur et persévérance. Alors je vais manquer de temps pour vous parler d'autres astronomes du XVIIIe siècle, comme par exemple Charles Messier qui catalogua 110 objets flous afin de les différencier des étoiles et des comètes, mais aussi de détailler la vie de Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande qui contribua significativement à la cartographie stellaire et à l'éducation astronomique. J'aurais aussi aimé vous parler de Nicolas-Louis de Lacaille qui passa plusieurs années au Cap de Bonne-Espérance où il observa et catalogua près de 10 000 étoiles de l'hémisphère sud. Il créa 14 nouvelles constellations encore reconnues aujourd'hui. Je dois vous avouer que le XVIIIe siècle, c'est mon siècle préféré en astronomie, parce que les découvertes réalisées lors de ce siècle ont forgé la façon dont nous voyons encore l'univers, et que ces découvertes, même si elles sont vraiment fondamentales, sont aussi très simples à comprendre, même pour des amateurs.